tenais aussi à remercier mes amis, Léna, Thomas, Jean-François, Nicolas. Et je voulais aussi remercier mon ami Paul Emploi, qui m'a soutenue pendant toutes ces années, du moins quand je pouvais lui ramener suffisamment d'heures. Sans ton existence, beaucoup de projets que j'ai faits n'auraient pas forcément vu le jour, car c'est une subvention en fait indirecte aux artistes pour leur spectacle, d'une certaine façon.
Et voilà, l'économie est partout, même à la cérémonie des Césars. Voici Laure Calamy, César de la meilleure actrice, qui nous rappelle que le régime des intermittents, qui explique pour une bonne partie le déficit du système d'assurance chômage, eh bien ça n'est pas une anomalie, pas un abus, c'est un choix politique, un soutien public à la culture. Et la culture, ne pensons pas que c'est un confetti hein, dans l'économie française. Si j'aligne les chiffres, 700 000 actifs, près de 150 000 entreprises, mais aussi 3,5 millions de bénévoles, on va tomber sur un peu plus de 2% du PIB. Et encore, une partie de la culture, c'est loin d'être rentable. Hein, par essence, pensez à l'opéra. Mais en réalité, on est loin du compte. Les spectacles, les concerts, tout ça, c'est du carburant pour le tourisme, pour les restaurants, pour les transports, pour nos marques qui vendent à l'étranger un peu d'esprit français. Alors les salles fermées, qu'est-ce qui est en danger? Beaucoup de ces artistes précaires, sans doute, des projets enterrés, des modèles économiques qui seront bouleversés. Est-ce que la VOD va tuer les salles de ciné? Mais la culture elle-même, en danger? Sans doute pas. Notre accès à la culture, pas non plus, à vrai dire. On trouve même des études qui nous disent, au contraire, cet accès est même facilité, renforcé en partie grâce aux écrans. Non, en vérité, tout ce dont nous sommes privés, ça n'est pas de la culture, ça n'est pas des idées, ça n'est pas des objets. C'est de toute cette économie du vivant, du partage, du brassage. Et ça, au bout d'un an, il faut bien dire que ça devient essentiel.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
N'arrêtez pas, on n'arrête pas l'écho. Nous parlons d'économie ici, mais surtout de notre vie, et c'est jusqu'à 10h. Juliette Gou et François Audouin sont à la réalisation. Alix Barrois, ce matin, est à la console, et c'est Valentin Pérez qui prépare l'émission avec moi. Tout ce petit monde est là. L'équipe derrière la régie, et puis derrière la vitre en régie, et puis de l'autre côté, autour de la table, eh bien, les débatteurs. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne. Je vous ai vu sursauter, alors je vais vous demander une petite réaction quand même sur la culture.
Les intermittents, c'est à peu près 1 milliard depuis des années. Donc effectivement, quand vous avez peu
de déficit dans les comptes de l'assurance chômage.
Voilà, donc quand vous avez beaucoup de chômeurs, ça fait petit. Quand vous avez moins de chômeurs, ça paraît gros, mais ça coûte pratiquement rien du tout. Vous l'avez dit, Alexandra, c'est une politique de soutien. Et si vous voulez arrêter de distribuer de l'argent aux artistes, eh bien, donnez-leur du travail. Laissez rouvrir les théâtres, laissez rouvrir les cinémas.
Laurent?
Oui, c'est un débat qui est assez ancien.
On aurait pu faire celui-là ce matin, c'est vrai.
On aurait pu le faire. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas effectivement l'assurance chômage que de porter une politique publique, puisque l'assurance chômage, c'est d'abord les cotisations des salariés, et c'est plutôt au budget de l'État de le faire pour que tout le monde contribue, puisque tout le monde bénéficie de la culture dans ce pays, et il y aurait un principe de bonne gestion à avoir le courage de faire cette réforme, oui.
Alors, on y reviendra, j'en suis sûre, parce que je pense qu'on va avoir du courrier. Mais ce samedi 13 mars, nous avons plutôt choisi de vous parler de ce vent d'optimisme qui a un peu soufflé cette semaine sur l'économie, avec pas mal de chiffres au vert pour la croissance. Cette fois-ci, faut-il y croire ? Christian, Laurent, nous nous retrouvons dans une poignée de secondes. Dans ce magazine, il sera aussi beaucoup question de nos EHPAD. Toujours des difficultés de recrutement, hein. Alors ce qui est fait pour y remédier, ce qui reste à faire. Vous entendrez le reportage de Caroline Pommès. Et puis notre invitée, c'est la patronne du numéro 1 européen des maisons de retraite. Interview de la directrice générale de Korian, Sophie Boissard, à 9h45. On parlera bien sûr aussi de l'assouplissement nouveau du protocole des visites, des sorties pour les résidents. Et puis juste avant 10h, vous connaissez le menu, hein, ça sera Ma vie au boulot, avec les réponses de Sandrine Foulon à vos questions. Mais tout de suite, le débat, cette semaine comme un parfum d'espoir sur l'économie.
Si on en croit les dernières prévisions de l'OCDE, la France sera cette année le pays affichant la plus forte croissance parmi les grands pays d'Europe.
1,4 points de plus entre décembre et mars. On était à plus 4,2% de croissance mondiale en décembre, on est à plus 5,6%. 1,4 au niveau mondial, vous êtes quand même sur du lourd.
Alors c'est vrai que l'économie mondiale fait un petit peu mieux, il y a deux raisons principales pour ça.
Laurence Boone.
La première, c'est qu'on vit un petit peu mieux avec le virus, donc il y a moins de restrictions à la mobilité, à l'activité économique.
Chef économiste de l'OCDE.
Et puis la deuxième, c'est le stimulus budgétaire américain qui est de 1900 milliards de dollars, comme vous savez, en plus des 900 milliards qui avaient été décidés en décembre. Et ça, c'est un impact énorme.
Les restrictions liées au Covid sont un couvercle. C'est une bonne image. Alors nous publierons lundi prochain nos prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année 2021.
François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France.
Ce que je peux déjà vous dire ce matin, c'est que dans notre prévision, la croissance sera au moins égale à 5% en 2021 et qu'elle sera une des plus fortes d'Europe, nettement supérieure à la moyenne européenne. La récession est derrière nous.
L'économie française a des capacités de rebond qui sont exceptionnelles.
Bruno Le Maire.
Et l'économie française va surprendre la zone euro et le reste de l'Europe.
Ministre de l'économie.
Et ce qui me fait dire ça, c'est le maintien de l'investissement des entreprises. C'est une très bonne nouvelle. C'est la mobilisation des entrepreneurs. C'est une très bonne nouvelle. C'est la résistance du marché du travail. Je le dis, l'économie française retrouvera des couleurs très rapidement, dès que les mesures de restrictions sanitaires seront levées. C'est la seule inconnue.
La perspective de la vaccination est effectivement la clé de tout ça.
Xavier Timbaud.
Parce que ça nous permet de sortir des mesures de restrictions.
Directeur principal de l'OFCE.
Et là, tout repart parce que, en fait, dans cette crise, quoi qu'on en dise, au final, il n'y aura pas véritablement d'impact massif sur la population. Alors, il y a des comptes qui sont fortement dégradés. Mais il n'y a pas eu de destruction de capital physique. Et donc, à partir de là, quand on lève ce qui a provoqué cette crise sanitaire, ça revient très rapidement à ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu la crise.
Laurent Bigorne, je me tourne vers vous. Dites-nous quels chiffres vous ont parlé cette semaine et est-ce que la photo de l'économie est en train de devenir plus rose?
Alors, je vais dézoomer un instant. Je comprends tout à fait l'optimisme volontariste du ministre de l'économie. Il ne peut pas faire autrement, mais il faut quand même bien dire qu'il est optimiste à un moment où commence une troisième vague du virus en Europe. C'est quand même ça le fait majeur. Et le fait majeur, par ailleurs, c'est la corrélation entre, ça a été dit dans le petit son, entre la situation sanitaire et la situation économique. Rappelons-nous qu'on reconfine en Italie à partir de demain. Et qu'hier, le Premier ministre de la France, Jean Castex, a dit que la situation devenait, je le cite, extrêmement tendue, notamment en Ile-de-France. Alors, quant aux chiffres, sur le plan économique...
Oui, cette poisson de chiffres qu'on a eue cette semaine.
Croissance à 5% selon la Banque de France en 2021, 5,5% selon l'INSEE, l'OCDE est mieux-disante, elle est à 6 points, mais elle vise aussi les effets, on en parlera tout à l'heure, du plan, du méga-plan, du plan gargantuesque des États-Unis de Biden passé cette semaine. Il n'en reste pas moins qu'à la fin juin, on sera toujours 3 points en dessous de la richesse qui était la nôtre fin 2019, qu'on est dans une forme d'entre-deux sanitaire et qu'il y a une forme de lassitude dans les entreprises des secteurs les plus affectés, hôtellerie, restauration, transport aérien, service à la personne. Une inquiétude des entreprises quant à leur productivité. Il y a une entreprise sur quatre qui dit avoir perdu pas mal de productivité depuis le début de la crise. Et puis là où on reconfine, on sait une chose, c'est que la chute est brutale. Chiffre intéressant de cette semaine, quand on reconfine dans les Alpes-Maritimes ou dans le Pas-de-Calais, le premier week-end on a reconfiné, moins 35% de transactions si on en croit la volumétrie des cartes bancaires, ce qui se fait évidemment dans les commerces. Alors, où sont les espoirs? Effectivement, les espoirs, c'est qu'on a passé énormément d'argent public au soutien de l'activité. 77 milliards, on s'est enfin passé l'année dernière dans les mesures d'urgence. Déjà 10 milliards cette année sur la quarantaine qui est prévue. 26 milliards du plan de relance qui sont engagés. Ça me paraît, moi, assez faible, on l'a déjà dit à cette antenne. Mmh. Et puis des prévisions du côté des espoirs, qui continue d'être bonne du point de vue de l'emploi. C'est Manpower qui nous disait cette semaine, sur la période d'avril-juin, on aura une augmentation des emplois en France de l'ordre de 7%. On pense que ce sont beaucoup les grandes entreprises qui préparent la reprise du mois de septembre, la réouverture complète de l'économie, des revenus des ménages qui sont préservés, l'investissement, le ministre l'a dit, qui a mieux résisté que prévu, une reprise en V dans l'industrie, les biens d'équipement sont revenus à leur niveau d'avant-crise, et puis on en parlera, une résilience de l'Asie et le plan Biden.
Waouh! Ça, c'était le panoramique.
Okay. Bon, bah, il a tout dit, on passe à la deuxième question.
Bon, Christian, non, bah, alors on va aller plus vite peut-être avec vous, si vous êtes d'accord avec
moi. Oui, moi je suis assez d'accord. Ce matin, j'ai mes lunettes roses.
Mais il y a
plein de choses. L'industrie, Laurent l'a dit, est plus que 1,7% en dessous de son point de février 2020, donc c'est quand même fort. Et puis, avec ce qu'a dit Xavier Timbaud dans le petit son, il y a deux forces vraiment qui sont importantes et qui peuvent soutenir la croissance de l'économie française, c'est qu'on n'a pas trop perdu en capital humain. Évidemment, tous les précaires n'ont pas retrouvé de boulot
On en a parlé dans la culture notamment. Mais sinon, avec les activités de chômage partiel et le soutien public, on a plutôt préservé le capital humain. Et puis, on a préservé le capital physique. Les économistes commencent à reconnaître que la grande vague de faillite qui nous était annoncée finalement, elle n'aura peut-être pas lieu. On le disait depuis longtemps ici, mais les économistes commencent à le reconnaître. Et l'investissement des entreprises, j'étais surpris en regardant les chiffres, depuis septembre dernier, recommence à monter. Et ça va vraiment dans le bon sens.
Alors Christian, quand même, Laurent, il nous a mis un gros bémol, si j'ai quand même compris, avec le reconfinement.
Il y a un gros si, ouais. C'est si on progresse sur la vaccination et si on ne reconfine pas.
Donc je voudrais savoir quand même pourquoi vous dites, oui, c'est un peu nerveux comme rire. Pourquoi dites-vous que on peut quand même avoir des lunettes roses? Par quoi est nourri ce vent d'optimisme?
Je viens de le dire, c'est parce que le capital humain et le capital physique sont là. Donc quand vous avez besoin de faire de la croissance, si vous avez perdu l'un ou l'autre, ou les deux, ou la productivité générale, ça tombe. Et là, c'est vrai qu'on a d'un côté peut-être une troisième vague en France et peut-être l'Île-de-France qui sera reconfinée. De l'autre côté, vous avez quand même les vaccins qui progressent. La France était, l'Europe est en retard sur les États-Unis et sur le Royaume-Uni. La France est en retard sur les autres pays européens. La France n'est plus en retard par rapport aux autres pays européens. On a beaucoup progressé. Ouais. Et bien sûr, il y a l'éléphant dans la pièce qui est le plan américain.
C'est là où je voulais vous emmener.
Oui, on va arriver à l'éléphant, voire au mammouth, avec un vrai sujet, c'est que la France est peut-être de moins en moins en retard, elle reste en retard, 37e dans le monde, 5e ou 6e économie mondiale, il y a quand même un vrai gros sujet et il faudra quand même qu'on puisse
vaccination.
Se poser la question un jour. Il y a un game changer cette semaine, c'est le vaccin, on peut en dire un mot, hein, de Johnson & Johnson. Pourquoi est-ce qu'il peut changer les choses? D'abord parce qu'il ne nécessite qu'une dose et pas deux, contrairement aux trois produits qui étaient déjà certifiés dans l'Union européenne. Il a une durée de conservation plus longue et plus simple. Il y a des températures donc plus accessibles. C'est un espoir pour nous. C'est un espoir, moi j'insiste sur cette dimension chaque semaine, pour les pays en développement. Il faut qu'on comprenne que vacciner la France et l'Europe, ça ne suffit pas.
Et puis le gros game changer, comme dirait Laurent, donc ce qui change tout, évidemment Christian, c'est ce plan américain, le mammouth.
Ah, complètement, ça, il y a un des conseillers économiques de Franklin Roosevelt dans les années 30 qui a dit ce qu'on a réussi en fait avec le New Deal, c'est une révolution de point de vue. Je pense que peut-être Joe Biden est en train de réussir une révolution de point de vue en disant les États ont un espace d'action budgétaire qui est bien plus important que ce qu'on a dit ces dernières années. Et Biden nous dit, moi j'ai décidé de l'utiliser. Comment?
Alors attendez, les États ont de l'espace budgétaire, ça veut juste dire en langage profane.
On peut y aller à fond, voilà, sur les dépenses, sur les déficits et sur la montée de la dette.
Comme en France depuis 10 ans.
Donc là, on a un plan de relance qui fait 1860 milliards, d'accord, puisqu'il y a eu un petit... On a enlevé un petit peu sur les 1900 milliards. C'est l'équivalent de près de 9% du PIB des États-Unis. C'est énorme. La moitié va aller aux ménages. Un chèque de 1 400 $ pour les gens qui gagnent jusqu'à 75 000 $ par an.
C'est-à-dire 85% des Américains.
L'équivalent de 5 300 € par mois. Vous allez recevoir un chèque. Plusieurs crédits d'impôt spécifiques pour les plus pauvres. On sait que, notamment pour les aider à payer leur assurance santé, ils vont le dépenser l'argent. Des compléments de revenus pour les chômeurs, là aussi pour aider ceux qui sont en difficulté. Un gros budget pour aider les collectivités locales. Rappelons-nous qu'aux États-Unis, c'est eux qui entretiennent les écoles. Un petit budget très ciblé pour les entreprises. Donc il n'y a pas grand-chose pour les entreprises. Restauration, transport, de l'argent pour accélérer la vaccination, ce qui fait que Joe Biden a dit normalement le 4 juillet, le jour de la fête de l'indépendance, vous allez pouvoir recevoir vos amis chez vous. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, je pense qu'il aura du mal à dire le 14 juillet, vous faites la fête entre amis. Et n'oublions pas ce petite cerise sur le gâteau du plan Biden, le renflouement des fonds de pension, ce qui nous montre encore que les fonds de pension, c'est pas la solution.
Ça, c'était la Chavagne Touch. Ok, sur les fonds de pension. Moi, je veux revenir sur Laurent Bigorne, quand Christian nous dit on peut y aller à fond, on peut mettre de l'argent, et c'est ça que nous montre le plan Biden. Il renverse la perspective.
Il n'y a pas de limite à la dette publique. Il n'y a pas de limite financière à la dette publique.
On va dire que le plan Biden ne montre rien jusqu'à maintenant. Il vient d'être adopté législativement, ce qui n'est pas de l'économie, c'est de la politique. Je pense que cette politique, elle vise à retenir l'exemple de la crise de 2008. C'est-à-dire qu'il y avait un sentiment, après la crise de 2008, d'une trop grande timidité des responsables politiques aux États-Unis, et on s'était dit, si jamais il y a à nouveau une crise, on fera ce qu'il faut, non pas seulement d'un point de vue monétaire, mais surtout d'un point de vue budgétaire. C'est ça dont il s'agit, je crois, avec une volonté des équipes de Biden, c'est d'éviter le piège européen et japonais, c'est-à-dire une très faible inflation, et puis des taux d'intérêt très bas et donc une croissance objectivement chaotique ou insatisfaisante pour les années qui viennent. D'où cette volonté de faire une énorme relance. quand Christian dit c'est très ciblé sur les ménages, c'est quand même
la moitié.
Oui, mais c'est quand même oublié qu'il y a déjà 2 000 milliards de dollars plus 900 milliards de dollars sous Trump qui ont été passés. Il y a eu énormément pour les entreprises et c'est oublié qu'il y a un plan qui arrive.
Parce que 2000 milliards
de 2000 milliards sur la transition écologique et qui va mettre du America first, c'est-à-dire de l'Amérique d'abord, partout, d'un point de vue économique. Et donc, il y aura bien de l'aide, directe et indirecte, massivement aux entreprises, notamment sur la question de la transition énergétique.
En quoi ce plan fait du bien à la planète entière? Est-ce que là il y a un débat, Christian?
Non, il n'y a pas de débat parce qu'on sait que à chaque fois que les États-Unis boostent leur demande intérieure comme ça, c'est ce qui va se passer. Les ménages, les entreprises vont pouvoir dépenser beaucoup. Les capacités productives des États-Unis sont pas là. Donc la conclusion que certains économistes comme Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI, c'est de dire il y a tellement de demandes avec tout cet argent que Biden déverse qu'il va y avoir de l'inflation parce que les entreprises vont pas pouvoir. Sauf que il oublie un truc tout bête, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des pics de demande interne aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un creusement du déficit commercial. Ce que vous ne pouvez pas produire aux États-Unis, vous allez l'importer d'ailleurs. Et donc, si vous l'importez d'ailleurs, c'est-à-dire que l'ailleurs exporte
c'est
beaucoup.
C'est bon pour l'ailleurs.
Et donc, c'est bon pour l'ailleurs, et notamment, c'est bon pour l'Europe qui exporte beaucoup aux États-Unis. Donc, non, pas de risque d'inflation parce que on serait limité.
Laurent.
Un risque néanmoins de surchauffe, c'est ce que dit Olivier Blanchard. On verra sur l'inflation, il faut rester très prudent. D'autant que si demain il y avait inflation, autant l'économie américaine a la vigueur pour résister à une augmentation des taux, il n'en sera pas de même pour la zone.
Il n'y aura pas inflation et augmentation des taux, Laurent.
Oui, alors, il y a quand même une vraie discussion, parce que je vois dans les déclarations de Mme Lagarde cette semaine à la tête de la BCE, de Laurence Boone, qui est l'économiste en chef de l'OCDE, en disant bien sûr que il n'y a pas de risque d'inflation massive dans les mois qui viennent, mais il va y avoir des tensions ponctuelles.
C'est
sur l'énergie, sur les matières premières, et il faut faire attention à ce que ça puisse malgré tout passer, sachant que le plan, Olivier Blanchard nous dit, c'est 3 fois ce qu'il aurait fallu, et l'OCDE nous dit, c'est comme si on ajoutait l'année prochaine l'équivalent de l'économie de l'Italie aux États-Unis. Bon, c'est considérable.
Mais la question qui se pose... Alors, la question qui se pose quand même, c'est considérable peut-être trop, mais bon, ça fait beaucoup d'argent, on voit que ça va faire de l'activité. On se demande pourquoi nous, on ne fait pas la même chose. On se demande si les États-Unis ont des moyens ou des leviers que nous n'avons pas, et finalement, on est en train de penser, là, toutes nos règles de Maastricht, hein, normalement, 3% du déficit, 60% de la dette, on ne devait pas dépasser ça. Est-ce qu'il faudrait le faire? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Il nous reste 3 minutes.
3%, 60%, on a déjà suspendu jusqu'à la fin de 2022. Donc on a jusqu'à la fin de 2022, nous Européens, pour dire qu'est-ce qu'on met à la place. Tout, vous avez des millions de déclarations de dirigeants de banques centrales, de ministres des Finances qui disent on ne reviendra pas à cette règle. Qu'est-ce qu'on met à la place? Vous avez Françoise Villeroy de Gallo, qui est le gouverneur de la Banque de France, qui dit il faut pas que les dépenses publiques augmentent plus que le PIB. Vous avez Clément Beaune, notre ministre des Affaires européennes, qui dit il faut des contraintes sur les dépenses publiques. On est les frugaux. C'est du côté des Français, parce que vous allez du côté des Allemands, vous avez un conseiller de Merkel qui dit le frein à la dette qu'on a mis dans la constitution allemande pour limiter l'endettement, il faut le faire sauter, gloups, c'est les Allemands qui disent ça, et Isabelle Schnabel, qui est l'Allemande membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui nous a dit il y a quelques semaines, les politiques monétaires non conventionnelles peuvent être complétées par des politiques budgétaires non conventionnelles. Allez-y les gars, les États, il faut dépenser à fond.
Mais donc nous, on peut faire comme les Américains.
Il n'y a aucun problème.
Laurent, on peut imprimer des euros
Deux points très rapides, puisqu'on est contraint par le temps. Mais le premier, c'est qu'on fait déjà beaucoup comme les Américains. Pourquoi? Parce que ce que constate Christian quand il nous fait, j'allais dire, la liste de toutes les dépenses, c'est qu'en réalité, les Américains font des dépenses de l'État-providence. L'État-providence, il est européen, et en réalité, les Américains font passer pour des mesures d'urgence, des mesures qui sont structurelles en Europe, qu'on fait déjà et qu'on pratique massivement depuis le début de la crise. Oui, on soutient les populations malades. Oui, on soutient les populations au chômage. Oui, on soutient le revenu, puisqu'il n'y a quasiment pas eu de perte de revenus des ménages en France en 2020, et il n'y en a pas plus en 2021.
Donc, on sur les plus riches, là.
On a déjà,
d'accord.
Non, mais il n'y a pas de perte de revenus.
On ne fait pas assez pour aider les plus petits.
Il y a moins 8,5% de croissance en France, moins 8,5% de PIB, pardon, et il y a moins 0,3% sur les revenus des ménages. Donc, on fait déjà ce que font les Américains. Là où bas blesse, c'est qu'on n'est pas bon sur la relance européenne. De la même façon qu'on n'est pas très bon sur le vaccin en Europe, on n'est pas bon sur la relance européenne. On a 750 milliards qui ont été votés et il n'y a que 8 États sur 27 qui ont ratifié. Donc là, carton rouge.
D'accord. Donc vous nous dites, en fait, on n'a pas besoin de mettre plus pour l'instant, si, sur la relance.
Mais il faut absolument que ces 750 milliards arrivent. On les a votés, on les a décidés dans un timing qui était bon. Et maintenant, sur tout l'aspect État-providence, rappelons-nous que l'Europe est le continent de l'État-providence.
Ne nous laissons pas bluffer, voilà.
750 milliards, 4 000 milliards de l'autre. Donc on n'est vraiment pas à la même hauteur.
Oui, mais là, on compare des choux et des carottes.
Pas du tout.
Christian Chavagneux et Laurent Bigorne, les débatteurs de ce samedi. Bon, je crois qu'on se quitte sur un désaccord et on
fructueux.
Aura... Fructueux, on a appris plein de choses. Allez, je vous emmène maintenant voir l'économie comme elle change ailleurs. Cette semaine, ce dont on a aussi beaucoup parlé, évidemment, c'est de Fukushima. C'est à la suite de cette catastrophe qu'en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a pris une décision historique.
Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert, weil ich überzeugt war, dass es in einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nicht eintritt. Jetzt ist es eingetreten.
Bon, allez, moi aussi, un 9 ans en allemand, je comprends pas tout. Mais c'est la chancelière allemande devant le Bundestag en mai 2011. Elle dit en gros que même dans un pays à haute technologie, la catastrophe peut arriver. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Alexandra, Guten Morgen.
Guten Morgen, vous êtes le correspondant de France Inter en Allemagne. Alors la chancelière, elle annonce la sortie du nucléaire, c'était en 2011. 10 ans plus tard, où en est Berlin ? Ludovic, on a beaucoup entendu que vous aviez remplacé l'atome par le charbon. Vrai ou faux ?
On pouvait dire cela il y a 5 ans, mais plus maintenant. Pour le charbon, on est passé de 40% du mix énergétique en 2015 à 25% aujourd'hui. C'est encore beaucoup, ça pollue énormément, mais ce sont bien les renouvelables qui ont pris la place. En atteignant pour la première fois l'an dernier 50% de la production d'électricité, 65% c'est l'objectif en 2030, dans moins de 10 ans, là où ces énergies représentaient moins de 25% au moment de la catastrophe de Fukushima. C'est donc bien cet événement, la décision qui en a découlé, qui a précipité la transition énergétique en Allemagne. Le nucléaire sera de l'histoire ancienne à la fin de l'année prochaine, avec la fermeture des 3 dernières installations sur les 17 qui existaient en 2011. Et puis, ce n'est pas qu'une seule sortie, mais désormais 2 que l'Allemagne est en train d'opérer. Depuis l'an dernier, avec un plan de sortie du charbon à l'horizon 2038, voire si possible dès 2035, Berlin recourt donc beaucoup au gaz pour sécuriser son approvisionnement, au risque d'augmenter sa dépendance à la Russie. C'est toute la controverse autour du chantier du gazoduc Nord Stream 2. Le gaz et ses centrales, c'est aussi très polluant. Malgré tout, l'Allemagne parvient à baisser ses émissions de gaz à effet de serre si l'on s'en tient à comment elle produit l'électricité. En revanche, avec son industrie, et c'est un grand pays, ses transports, les voitures, les camions, au global, les objectifs ne sont pas atteints et les émissions de gaz à effet de serre stagnent et provoquent la colère des écologistes qui seront dans 6 mois les adversaires les plus sérieux des conservateurs aux élections législatives.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin, merci à vous. Il est 9h34 sur France Inter. Dans 10 minutes, l'invité du Mag Éco, c'est Sophie Boissard, la directrice générale du groupe Korian, les maisons de retraite. Mais d'abord, un an de pandémie, comment vont nos EHPAD ? Comment vont leurs soignants sur le front depuis le début de cette crise ? Ce matin, évidemment, on sort du studio, comme tous les samedis, nous partons en Haute-Savoie. Notre reporter est à Sallanches. Voici la maison de retraite, voici l'hôpital, vous le voyez, crème orange avec ses grands poteaux en acier. Et voici l'Institut de formation des aides-soignantes.
Ah non, c'est vous qui allez faire. Ah ben oui. Bon, alors donc vous avez eu le cours sur la prise de la tension artérielle. Donc je vous laisse positionner l'appareil.
Donc on positionne le brassard à environ 2 doigts au-dessus du coude.
C'est cela. Voilà, et là vous regardez, donc il y a un premier, vous entendez les premiers battements. 13-8. Bon bah c'est parfait. Comment vous vous appelez ?
Marlène. Elodie. Je suis ASH, donc agent des services hospitaliers faisant fonction aide-soignante en EHPAD.
Faisant fonction, c'est quoi ça ?
Eh bien, c'est le même rôle que l'aide-soignante, sauf qu'on n'a pas le même salaire, ni la même couleur de blouse.
Et vous gagnez combien ?
Alors moi, je travaille de nuit, donc j'ai des primes, un travail de nuit, les primes de week-end, mais aux alentours de 2 500 €.
Donc vous arriverez à combien à la fin de cette formation ?
Ben, j'espère gagner au moins 300 euros de plus par mois.
Et est-ce que c'est le Covid qui a fait que vous vous inscriviez à une formation pour devenir aide-soignante ?
Non, j'ai toujours voulu passer mon diplôme, mais ça a renforcé encore plus mon envie, ma volonté d'aider, de soigner, de prendre soin des autres. Mais c'est bien, cette crise a quand même montré aux gens, à la collectivité, qu'il y a un vrai problème dans les EHPAD et qu'il faut que ça change.
Vous, ça fait 3 ans que vous travaillez en maison de retraite. Est-ce que c'est facile ?
Non, c'est pas facile au quotidien. Il y a énormément de travail.
En 3 ans, il y a beaucoup d'aides-soignantes qui sont parties ?
Oui.
Je pense que c'est lié à la charge de travail. On est confronté à pas mal de problématiques, mais en même temps, les personnes âgées nous enrichissent beaucoup au quotidien. Et voilà, je ne me vois pas faire autre chose pour l'instant.
Marlène et Élodie, nos premières lignes. Alors ces derniers mois, il y a quand même eu une prise de conscience. Primes, revalorisation des salaires et puis le gouvernement qui a annoncé d'ici 2022 16 000 nouvelles places de formation pour les aides-soignantes et les infirmières. Il devrait aussi y avoir des formations accélérées d'assistants de soins en gérontologie par exemple. Est-ce que c'est assez? Comment faire plus pour les EHPAD? C'est le reportage ce matin de Caroline Pommès que l'on retrouve à Sallanches, dans le bureau du directeur.
Jean-Rémy Richard, je suis directeur des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.
Quelle est la situation dans vos EHPAD?
Alors, la situation est plutôt bonne, mais on se heurte à des difficultés de recrutement, comme partout ailleurs en France, pour plusieurs raisons. D'une part, on est très proche de la Suisse. D'autre part, à qualification égale, il vaut mieux parfois travailler dans des entreprises où le rythme de travail est peut-être moins important que travailler, alors parfois des dimanches, des jours fériés, avec des salaires qui, pour les candidats, sont mis en comparaison par rapport à d'autres secteurs d'activité.
Est-ce que là, en ce moment, il y a des difficultés? Vous recherchez du monde et il n'y a pas de candidats?
Alors, un petit peu moins en ce moment. On a montré pendant le Covid et après le Covid qu'on avait, et ça c'est important, des professions qui étaient à forte utilité sociale. On est très attaché aux éléments aussi de rémunération qui sont annoncés nationalement. Vous le savez, les soignants ont bénéficié d'une prime l'année dernière liée au Covid, 1 500 €, ce qui n'est pas neutre. Ça représente un mois de salaire pour la plupart de nos soignants, donc c'est important. On a bénéficié aussi d'une revalorisation qui s'applique à l'ensemble des catégories du soin. Et ce qui est prévu cette année, c'est une recatégorisation des soignants pour passer de la catégorie C de la fonction publique à la catégorie B. Et c'est quelque chose sur lequel, évidemment, on sera très attentif en tant que centre hospitalier, au même titre que les aides-soignants, parce que qui dit recatégorisation dit aussi revalorisation de ce métier d'un point de vue pécuniaire.
À la CGT Santé, syndicat majoritaire dans le public, les représentants du personnel demandent que le Ségur de la Santé aille encore plus loin. Malika Bellarbi est aide-soignante dans un EHPAD de Boulogne-Billancourt. Elle est responsable du collectif Aider les personnes âgées.
La revalorisation, elle est quand même minime. C'est 183 €. Pour certains, c'est un petit souffle, mais c'est pas assez suffisant. Elles sont en moyenne au SMIC, elles gagnent pas énormément. Par exemple, certaines soignantes de grands groupes privés, où elles travaillaient la nuit avec un salaire, par exemple, net de 1 200 € net, excusez-moi. Un salaire vraiment minable. Dans le secteur public, vous avez de plus en plus des emplois précaires. Bon, des fois, il y a un peu 200 €, 300 €, mais dans quelles conditions? Elle travaille les week-ends, elle travaille de nuit, elle travaille sur des horaires de 12 heures de travail intensif avec peu de personnel. Il faut faire la toilette, il faut les habiller, il faut prendre qu'elles prennent le petit déjeuner, le midi, le soir, le soin relationnel, l'animation. Donc il y a une grande difficulté pour le soignant et pour le résident sur la prise en charge. Il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse regagner vraiment une adhésion à venir travailler dans le secteur des EHPAD et des services de soins à domicile.
Pourtant, le gouvernement promet 16 000 places en formation d'aides-soignants ou d'infirmiers. Ça veut dire qu'il y a du monde qui va arriver ?
Déjà, 16 000 places, je ne sais pas si c'est suffisant parce que on a quand même besoin, sur le secteur tout confondu, 200 000 emplois pour les EHPAD et 100 000 emplois pour l'aide à domicile. Maintenant, les formations, on va bien voir. On va bien voir que pour l'instant, on ne voit rien. Ça, c'est clair.
Sur le recrutement, on sent qu'il y a des efforts de la part du gouvernement, mais que les salaires restent le nœud du problème. Mais pour les augmenter, l'effort doit venir de la sécurité sociale. Parce que quand un résident d'EHPAD paye sa chambre tous les mois, presque la moitié de cette somme va dans l'hébergement et la restauration, comme pour une chambre d'hôtel. Une partie va à l'accompagnement quotidien et le reste, remboursé par la sécurité sociale, paye le personnel soignant. Florence Arnaise-Momé est déléguée générale du SINERPA, syndicat national des maisons de retraite privées.
À chaque fois que l'on recrute davantage, ça a forcément un impact soit sur les crédits d'assurance maladie, soit sur les crédits du département, soit sur le tarif hébergement. Et alors là, c'est une augmentation directe pour la personne âgée ou sa famille. Donc, évidemment que nous pourrions recruter davantage. Toujours est-il qu'il faudrait que ces recrutements complémentaires soient absorbés, soit par le tarif soins, et aujourd'hui on ne nous l'accepte pas, soit par le tarif dépendance, et là c'est les départements qui ne peuvent aujourd'hui l'assumer, soit par le tarif hébergement, dont on sait déjà qu'il est souvent élevé, et donc il n'y a pas aujourd'hui de possibilité, et en plus sur le tarif hébergement, ce ne sont pas des personnels soignants qui émargent sur le tarif hébergement. Donc si, c'est le cas aujourd'hui, les besoins en EHPAD sont majoritairement tournés vers des besoins en personnel soignant. D'abord et avant tout, il faut qu'on les trouve, donc il faut les former. Et puis ensuite, il faut que l'assurance maladie elle-même accepte de les financer. Et c'est bien tout l'enjeu de la loi Grand Âge que nous appelions de nos voeux pour voir se débloquer vers notre secteur des crédits d'assurance maladie nous permettant de recruter des personnels soignants.
Appel en cours.
Une loi Grand Âge qui ne devrait finalement pas voir le jour avant la fin du quinquennat. Pour l'économiste Frédéric Bizard, directeur du think tank Institut Santé, c'est encore un signe que le sujet de la vieillesse en France n'est pas prioritaire.
D'abord, je crois que la France a un vrai problème avec les personnes âgées, en particulier les personnes très âgées, avec une vision un peu économique de la chose, où ce sont les personnes qui sont improductives, et ce sont des personnes, on en reste encore un petit peu une responsabilité familiale. Donc il y a un problème culturel. Puis évidemment, on fait face aujourd'hui, depuis un certain temps, à un problème de moyens économiques qui, encore une fois, du fait de notre déficit important et évidemment à l'arrivée de la crise Covid, à partir du moment où vous jugez que le secteur n'est pas prioritaire pour le pays, vous avez encore moins de chances qu'il y ait le niveau d'investissement suffisant.
Pourtant, le gouvernement débloque de l'argent aujourd'hui, des milliards d'euros pour l'hôpital, pour les EHPAD. Il y a eu également la revalorisation des salaires pour les soignants.
Oui, mais tout ça, ce sont plus des pansements que des virages stratégiques, je dirais. Il y a un vrai problème sur le sujet des EHPAD qui est la non-gouvernance. Vous avez un système qui est très peu régulé. Donc avec une sous-dotation pour les soins et pour les services de la dépendance, les EHPAD publics, donc essaie de faire un maximum d'économies sur ces postes pour arriver à équilibrer leurs comptes et ont très peu de marge de manœuvre pour avoir une restauration et un hébergement de qualité. Quant au secteur public à but lucratif, lui, il fait tout autant d'économies sur les soins et sur la dépendance parce qu'il est aussi en situation de sous-dotation. Et en revanche, il essaie de maximiser ses marges sur l'hôtellerie et la restauration. Donc ce sont des budgets qui sont dérisoires, 5 à 6 euros par jour pour certains grands groupes. Donc il n'y a aucune réflexion économique positive sur cette classe d'âge, sur ce secteur-là, et ça c'est une erreur.
Recruter dans les EHPAD, toujours un défi. C'était le reportage de Caroline Pommès.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et nous allons continuer la réflexion avec notre invitée ce samedi. C'est la patronne du numéro 1 des maisons de retraite en Europe, la directrice générale du groupe Korian. Bonjour Sophie Boissard.
Bonjour Alexandra Ben Saïd, merci de m'inviter ce matin.
Vous êtes la bienvenue. Alors en France, il y a près de 7000 EHPAD, 80% dans le public et l'associatif, 20% dans le privé. Chez Korian, pour situer les choses, pour faire la photo, environ 300 EHPAD.
Oui, c'est ça, 300 maisons de retraite médicalisées.
On sait que ce secteur manque de bras. Vous avez entendu le reportage, cette soignante qui dit que le Covid a en plus provoqué une vague de départ. Aujourd'hui, où en êtes-vous chez Korian? Combien d'offres d'emploi non pourvues?
Alors je vais le dire à l'envers. L'année dernière, dans cette période de Covid, nous avons recruté 5400 nouveaux collaborateurs de Korian en France en contrat à durée indéterminée, sans compter les renforts qui sont venus dans les moments d'épidémie prêter main forte dans nos établissements.
Mais est-ce que ça suffit à compenser le manque de bras chronique ?
Il n'y a pas de manque de bras chez Korian, mais c'est le résultat d'un travail de plusieurs années. Pour faire beaucoup de choses, d'abord pour identifier nos besoins de manière proactive, c'est-à-dire qu'on sait exactement au début de chaque année combien de personnes il va falloir qu'on recrute, dans quel métier et à quel endroit. Ensuite, on a travaillé nos relations avec les instituts de formation, on a aidé les établissements qui ont beaucoup, beaucoup de choses à faire au quotidien à constituer des viviers, on a fidélisé les personnes qui intervenaient ponctuellement lors de remplacements, etc., pour pouvoir les faire venir en CDI. Et on s'est lancé dans l'alternance et l'apprentissage. Moi, je suis très fière d'avoir maintenant 750 apprentis, dont la moitié qui vont devenir aides-soignants, et qui sont chez nous en contrat d'apprentissage, et puis que derrière, évidemment, on embauchera.
Alors c'est parce que justement, les années à venir, il va y avoir des besoins énormes.
Eh bien voilà, alors donc la bonne nouvelle, c'est que quand on s'organise comme ça, mais il faut des moyens, il faut une politique de ressources humaines, ça fonctionne, mais ça fait encore une fois 3 ans qu'on a engagé ce travail de fond sur notre marque employeur, sur nos organisations et sur nos équipes de recrutement. On est devenu en fait une entreprise de recrutement aussi et de formation. On a notre propre centre de formation d'apprentis désormais.
Mais combien allez-vous de personnes recruter ?
Alors moi, chaque année, je suis organisée maintenant, et on a fait ce travail à l'échelle européenne pour recruter 11 000 personnes chaque année, dont 60% de soignants, c'est-à-dire des aides-soignants, des infirmiers, des kinés, des ergothérapeutes, donc tous les métiers spécialisés des maladies chroniques ou du très grand âge. J'ai fait le calcul à l'échelle du secteur en France, parce qu'encore une fois, nous représentons 4 à 5% hein, de l'activité. En fait, d'ici 2025, et je crois qu'on n'a pas pris la mesure du problème, c'est 500 000 aides-soignantes qu'il faut faire venir dans le secteur du soin et de la santé. 500 000, c'est-à-dire un demi-million.
Donc c'est énorme.
Et pour ça, moi je suis absolument convaincue qu'il y a en fait tout à fait les moyens de le faire si l'ensemble du secteur, c'est-à-dire le public, l'associatif, le privé, se mettent ensemble avec les pouvoirs publics pour se dire « Ok, on en a besoin. Où ? Quel type de formation ? Et on fait de l'alternance. » Je comprends pas, moi, pourquoi on fait pas plus d'alternance. Alors, c'est en train de se déverrouiller, hein, justement là.
On est en train de parler de centaines de postes, et là, vous parlez de centaines de milliers de bras dont on aura besoin dans les 5 ans.
Mais oui, mais en fait, ce sont des métiers, des beaux métiers, des métiers de sens, des métiers collectifs, des métiers dans lesquels on peut exercer de plein de manières différentes. On peut être soignante en maison de retraite, on peut travailler à l'hôpital.
Mais on l'entend, Sophie Boissard, dans le reportage. Ce sont des beaux métiers, des gens qui ont une vocation, qui ont envie, mais il y a quand même des freins à l'embauche, qui sont toujours le salaire, les conditions de travail. Et ce qu'on a aussi entendu, c'est que le Ségur de la Santé a peut-être mis des pansements, mais on a même certains directeurs d'EHPAD cette semaine qui ont donné de la voix pour dire non, ce qui va vraiment changer les choses, c'est de repenser la sous-dotation du grand âge et vraiment d'accélérer sur cette loi grand âge qui n'est pas encore advenue, qu'on attend et qu'on aimerait voir avant la fin du quinquennat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la directrice générale de Korian ?
Alors, moi, je voudrais voir le verre à moitié plein avant de voir ce qui reste à remplir. Le Ségur, c'est un effort absolument inédit de remise à niveau des salaires sur ce secteur. Et juste pour donner vraiment des chiffres ce matin, aujourd'hui, une aide-soignante qui entre chez Korian, elle commence à un peu plus de 1900 euros.
Brut
salarié. Le salaire moyen d'une aide-soignante chez nous, c'est 2100 euros. Un infirmier, il commence à 2003, à presque 2004, et son salaire moyen, c'est presque 2008. Ça donne une idée, on est au-delà, nettement au-delà de la rémunération moyenne en France. Et si je regarde en évolution, hein, l'année dernière, c'est 5% d'augmentation de la rémunération chez Korian. Cette année, ça va être 8%.
Donc vous dites qu'il n'y a pas de problème de niveau de salaire.
Je dis juste qu'il y a vraiment eu un travail de remise à niveau très important qui a été fait et qui n'a pas encore fait complètement sentir ses effets, puisque le Ségur, c'est maintenant. Et ça, les personnes vont s'en rendre compte.
Donc vous ne militez pas pour une accélération de cette loi grand âge ? C'était ça ma question.
Moi, je pense qu'il y a... La première des choses, on en a parlé pour commencer, c'est de s'organiser pour former en nombre suffisant et avec les bonnes formations des professionnels. Et ça, je ne suis pas tout à fait sûre qu'il faille une loi. Il faut vraiment lever les freins aujourd'hui. Je vous donne un autre point qui me tient à cœur. On a les jeunes. Les jeunes, on peut les faire venir par l'alternance, en contrat d'apprentissage, ils sont formés et ensuite ils sont diplômés. Et ensuite, ce sont des métiers dans lesquels on peut ensuite progresser, se reformer. On a les personnes en reconversion et on a beaucoup de personnes qui ont envie de venir dans ces métiers.
Alors justement, il y a des gens qui sont licenciés de leurs entreprises.
Exactement.
Est-ce qu'ils peuvent se tourner vers vos métiers ? Est-ce qu'il y a des passerelles ?
Non, non et non. Et ça me semble le premier des sujets. Parce que, en fait, comme ce sont des métiers à diplôme d'État, en fait, aujourd'hui, rien n'est fait pour que des personnes qui sont plus âgées, qui ont plus de 30 ans, qui ne peuvent pas recourir à l'apprentissage, puissent entrer dans des formations qualifiantes où ils sont pris en charge par les fonds de la formation professionnelle et ensuite peuvent passer leur diplôme. Pour ça, il faudrait, pardon du terme, mais je pense que c'est important que vos auditeurs le comprennent, il faudrait qu'on puisse valider ce qu'on appelle les acquis de l'expérience. C'est-à-dire, ils reçoivent des cours théoriques, ils sont mis en situation d'emploi avec un maître d'apprentissage.
Donc ça reste à faire.
Et okay, ça,
ce que vous nous dites
il
ce
faut
matin...
pas une loi. Il faut un décret. Et ça peut se faire tout de suite. Et là, je comprends pas pourquoi on ne peut pas accélérer ce dispositif. Alors, le ministère du Travail en a conscience, le ministère de la Santé en a conscience, le ministère de l'Éducation nationale en a conscience, mais juste, faut le faire, parce que c'est maintenant. Alors, donc voilà, je pense que la loi Grand Âge, elle peut et elle devra donner plus de moyens de l'assurance maladie pour aller vers cette prise en charge des fragilités, de la grande dépendance, qui est finalement ce qui nous attend maintenant. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être faites sans attendre la loi, tout de suite.
D'accord, la VAE, la validation des acquis de l'expérience. On vous a comprise. Sophie Boissard, je vous emmène vers l'actualité ce matin, parce qu'on a donc ce message du gouvernement qui vient de finaliser ses recommandations, l'assouplissement des règles, des visites et des sorties dans les EHPAD. Qu'est-ce qui va se changer? Est-ce que les résidents vont retrouver de la liberté?
Vous pouvez pas imaginer à quel point la vaccination est en train de changer les choses dans les maisons de retraite. J'étais avant-hier à Bordeaux et je vois au fur et à mesure qu'elle se termine, parce que la première campagne de vaccination, elle est en train de se terminer, on est pratiquement à 90% des résidents vaccinés. Tout le personnel qui était éligible à la vaccination s'est vacciné et c'est en train d'arriver enfin aussi vers le personnel. Et en fait, on a des communautés qui sont maintenant protégées. On voit que le nombre de cas est en train de chuter. On est à moins de 1% de résidents aujourd'hui Covid+, très largement asymptomatiques. Et donc la vie reprend.
Est-ce que ça veut dire que vous avez moins de décès? Est-ce que ça veut dire que, on se souvient très bien, vous aviez dit qu'il y avait eu 700 décès au premier semestre 2020 chez Korian. Combien depuis et combien ces derniers jours?
Écoutez, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de décès liés au Covid. On est aujourd'hui dans une situation où nous, enfin, dans nos maisons qui sont des bulles d'immunité, désormais, eh bien, ça fonctionne. Ça veut dire que même les variants on peut avoir des cas asymptomatiques, mais sans cas graves. Et vous pouvez pas imaginer le sentiment de reprise de vie que ça représente. Et donc, c'est vrai que plus vite on aura vacciné tous les soignants, qu'on pourra...
Alors, parlons-en, allons-y. Donc, vous me dites, il y a 90% de vos résidents qui ont reçu la première dose. Combien la deuxième?
On est pas loin de 70%. On est vraiment en train de la terminer, cette campagne.
Et donc, ce qui ne fonctionne pas, c'est 40% à peine des... Enfin, 40%, disons, 4 soignants sur 10 qui ont accepté de se faire vacciner. Est-ce que pour vous, c'est un problème? Est-ce que ça fait courir un risque? Est-ce qu'il faudrait aller vers de la vaccination obligatoire?
Alors, je vais vous donner juste mes chiffres. Moi, aujourd'hui, j'ai un peu moins de 30% de mes soignants en maison de retraite et en clinique qui sont vaccinés. Et j'ai eu 10% de refus. Alors, vous allez me dire où est l'erreur.
Oui, il y a une erreur dans les chiffres.
Pas du tout. C'est simplement qu'on a reçu des doses pour les plus de 50 ans avec comorbidité. Enfin bref, ça a été fait par petits contingents. Et donc, en fait, je vous redonne mon exemple de Bordeaux. J'étais dans une clinique, 60 salariés, on avait reçu 20 doses. C'était la première. Donc, évidemment, les 20 doses, on les a utilisées. Je pense vraiment, ma demande, elle est... Toutes ces équipes, dans le médico-social, dans le sanitaire, il faut donner massivement accès à la vaccination, parce qu'évidemment, les gens ont envie de se faire vacciner. Ils ont très conscience que c'est une protection pour eux, pour leurs patients, pour leur entourage, et ça contribue
donc
à la
vie. Donc il n'y a pas de refus, il n'y a pas de peur de la
AstraZeneca. J'ai 10% de refus. 10% de refus, c'est très peu.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne dites pas « il faut ». La vaccination obligatoire, c'est
je
pas ça.
Je dis d'abord, donnez-moi les doses et la vaccination obligatoire, on verra quand elle sera complètement en libre accès dans tous les frigos des cliniques et des maisons de retraite.
Est-ce que ça n'est pas quand même trop tôt, je reviens au protocole, est-ce que ça n'est pas quand même trop tôt de libérer le régime des visites et des sorties quand on voit qu'il y a des zones aussi tendues que l'Île-de-France, quand on voit que là, le Premier ministre nous dit nous sommes dans une situation extrêmement tendue. Est-ce que ça n'est pas un peu prématuré, cette décision?
Mais je crois vraiment que c'est très clair pour tout le monde. On va pas, personne ne veut prendre de risques et risquer de revivre une mise en cause. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, il faut que la vie, et elle a déjà repris en termes d'activité, en termes de visite, de capacité de sortie, il faut que chacun reste très discipliné, c'est-à-dire testé. Et je suis tellement contente que les tests salivaires arrivent enfin en France. Il faut qu'on puisse tester tous les visiteurs, il faut qu'on puisse tester toute personne qui entre, continuer à porter des masques et à avoir ces gestes de précaution que l'on connaît tous désormais. Et comme ça, on va pouvoir arriver à faire en sorte que le virus soit endémique, c'est-à-dire il est dans notre environnement, on s'en débarrassera pas de sitôt, mais on peut reprendre une vie normale et penser à autre chose.
Sophie Boissard, une dernière question à la chronique judiciaire. On a appris jeudi que dans une de vos cliniques près d'Annecy, un médecin vient d'être mis en examen pour assassinat. Il aurait mis fin à la vie d'au moins 8 personnes âgées. Quelque temps avant son recrutement en 2019, il avait une interdiction d'exercer. Quel commentaire ce matin sur cette affaire?
Alors c'est une affaire en cours d'instruction qu'évidemment je ne peux pas commenter. La seule chose que je voudrais dire, c'est que c'est un médecin qui exerçait dans un service de soins palliatifs, donc auprès de malades en fin de vie. Et comme l'a dit le procureur de la République, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est le médecin à titre individuel et en aucun cas la clinique. On s'est d'ailleurs constitué partie civile dans cette affaire.
Sophie Boissard, la directrice générale de Korian, merci d'avoir répondu à l'invitation du Mag Écho.
Merci beaucoup Alexandra Vincent.
Sandrine Foulon, Madame Vieau-Boulot, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Alors la loi climat est à l'Assemblée, examinée en commission spéciale avant son arrivée dans l'hémicycle fin mars. Sybille, qui est salariée dans une PME d'Angers, vous demande si les entreprises peuvent faire plus pour la planète qu'imprimer en recto verso et supprimer les gobelets en plastique.
Eh bien, c'est déjà pas mal, Sybille. Le guide éco-responsable au bureau de l'ADEME, l'Agence de transition écologique, nous dit qu'on a encore de la marge. 13 millions de personnes qui travaillent 200 jours par an dans les bureaux, en gros la moitié de la population active, c'est 12 millions de tonnes de CO2 à cause des déplacements, 120 grammes de nourriture jetée à chaque repas au resto d'entreprise. Un salarié du tertiaire produit jusqu'à 140 kilos de déchets par an et chacune de ses requêtes sur Internet parcourt en moyenne 15 000 kilomètres de câbles. Alors oui, bien sûr, l'ADEME recommande d'utiliser des transports verts, d'éteindre les radiateurs avant d'aérer, de faire attention au papier. Un quart des documents sont jetés à la poubelle 5 minutes après leur impression. Mais il y a un vrai effort à fournir sur le numérique qui représente 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il faut balayer dans nos boîtes mail, éviter les vidéos et en ce moment éteindre au maximum la caméra pendant les visios. Enfin, l'un des gestes les plus efficaces, explique l'ADEME, c'est de faire durer au maximum nos téléphones et nos outils numériques. Un ordinateur portable consomme entre 50 et 80% de moins qu'un ordinateur fixe. Et plus l'écran est petit, mieux c'est.
Enfin, pour les yeux, plus l'écran est petit, plus c'est dur quand même. Mais bon, est-ce que cette future loi sur le climat peut davantage impliquer les entreprises ?
Aujourd'hui, le CSE, le Comité Social et Économique, peut déjà rendre des avis sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Les citoyens de la Convention pour le climat voulaient renforcer le pouvoir des élus, leur donner un droit à recourir à une expertise financée par l'employeur. Cette proposition n'a pas été retenue. Pour le moment, le projet de loi retient que dans les entreprises de plus de 50 salariés, les CSE soient informés et qu'ils aient leur mot à dire. Dès lors qu'un déménagement, un accroissement des effectifs ou l'introduction de nouvelles technologies peuvent avoir des impacts pour la planète. L'idée est aussi d'intégrer les enjeux de la transition écologique lors des négociations d'entreprises ou de branches sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les opérateurs de compétences, les OPCO qui accompagnent les besoins en formation des entreprises seraient chargés de les aider à franchir le cap. Ce sont de vrais plus sur le papier. Recyclables de préférence, mais comme toujours, ces nouvelles prérogatives exigent des moyens et des contours clairement définis si on ne veut pas qu'elles finissent à la déchetterie.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.